l'heure du journal de Kevin Dufraîche. Bonjour Kevin.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, après les annonces d'Emmanuel Macron lundi, de la souplesse finalement dans l'application du pass sanitaire. Un délai est accordé pour les salariés des établissements recevant du public. Ils ont jusqu'au 30 août pour être totalement vaccinés. Même date pour les ados entre 12 et 17 ans. Ce qui rassure, entre autres, les colonies de vacances. Les autres titres, Kevin.
La Tunisie durement frappée par le Covid. En France, la diaspora s'organise pour récolter de l'argent, mais aussi du matériel médical. Dans ce journal encore, le défilé militaire du 14 juillet. Parmi les corps mis à l'honneur cette année, les sous-mariniers. Bis repetita en Californie, où l'été est de nouveau synonyme d'incendie. Et un centenaire heureux, Edgar Morin, fêté hier soir à Avignon.
Les invités de la matinale de France Inter, elle était très attendue cette semaine au Festival de Cannes. Son film Titan a été présenté hier soir en compétition officielle. La palme lui reviendra-t-elle ? La réalisatrice Julia Ducournau sera notre invitée tout à l'heure à 7h50. Et puis à 8h20, dans le grand entretien, nous prendrons des nouvelles de nos armées avec la ministre Florence Parly. Avant le défilé militaire, vous le disiez, en ce jour de 14 juillet, vos questions dès maintenant sur France Inter au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter. Lundi soir, le ton dur et la main ferme d'Emmanuel Macron. Résultat des Français un peu déboussolés et d'un coup pressés d'être vaccinés contre le Covid-19. Et hier, un peu de souplesse accordée par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Invité du 20h de France 2, le ministre de la Santé a dit vouloir ne pas gâcher les vacances en famille. Alors que le pass sanitaire est censé entrer en vigueur progressivement pour tous les plus de 12 ans dans une semaine, il y a finalement des ajustements, Anne-Laure Barral.
Petit changement de calendrier pour commencer, le pass sanitaire sera finalement accordé une semaine après la deuxième dose de vaccin et non plus deux semaines. Et pour les adolescents, entre 12 et 17 ans, il ne s'appliquera finalement qu'au 30 août, soit quelques jours avant la rentrée scolaire, donc pas besoin pour eux d'être vaccinés avec deux doses ou de faire tout le temps des tests avant d'aller au restaurant ou dans les parcs d'attractions cet été. Le ministre a également précisé une tolérance pour les salariés de ces établissements recevant du public jusqu'au 30 août, mais ce qui veut dire qu'ils devront quand même avoir reçu une première dose de vaccin au 1er août. Enfin, Olivier Véran promet que l'on pourra tomber le masque dans les lieux qui exigent ce pass sanitaire. On pense donc au cinéma, au musée ou au train, à condition que l'épidémie n'accélère pas. Or, les dernières modélisations de l'Institut Pasteur ne sont pas très encourageantes, puisqu'elles prévoient même jusqu'à 40 000 cas possibles au 1er août à cause du variant Delta.
Anne-Laure Barral, autre annonce hier, la vaccination est désormais considérée complète une semaine seulement après la deuxième dose, contre deux semaines jusqu'ici. Des assouplissements alors que, pour rappel, dans une semaine, le pass sanitaire sera obligatoire pour tous les lieux de culture et de loisirs rassemblant plus de 50 personnes, dans les bars, les restaurants ou encore dans les trains début août. Ça ne concernera que les majeurs donc jusqu'au 30 août, d'où ce matin le ouf de soulagement des organisateurs de colonies de vacances qui doivent accueillir quelques 900 000 enfants cet été. Julie Paco.
Depuis lundi soir, le téléphone de Virginie Laurent n'a cessé de sonner.
Des parents qui s'inquiètent de savoir comment ça va se passer, si les séjours vont être maintenus, si on va pouvoir faire les activités, s'il faut faire vacciner les enfants.
Cette organisatrice de colonies de vacances à Sablé-sur-Sarthe doit pourtant accueillir un millier d'enfants cet été.
On leur a dit qu'on avait juste eu les mêmes informations que eux la veille au soir dans l'annonce présidentielle, en leur disant qu'on pouvait pas leur dire grand chose pour le moment.
Alors après les dernières annonces d'Olivier Véran,
nous avons identifié une solution concernant les adolescents de 12 à 17 ans de manière à ne pas gâcher les vacances des familles. Pour eux, le pass sanitaire s'appliquera à compter du 30 août.
C'est un soulagement pour nous parce que clairement, on ne voyait pas avec l'équipe comment en si peu de temps on pouvait se réorganiser. C'était vraiment l'incertitude et une grosse inquiétude à la fois.
Avec ses 50 salariés, cette directrice s'est ainsi appuyée sur le protocole sanitaire envoyé le 18 juin dernier et quelques questions restent toujours en suspens.
Est-ce que le test PCR devient obligatoire du coup aussi pour venir en séjour de vacances, sachant que là jusqu'à présent il était recommandé, pas obligatoire. Est-ce qu'il devient obligatoire?
Des interrogations auxquelles devra répondre le ministère de la Jeunesse et des Sports dans les prochains jours.
Julie Paco, en tout cas les effets escomptés après les annonces d'Emmanuel Macron ne se sont pas fait attendre. Nombre d'injections records enregistrées hier, un peu plus de 792 000 comptabilisés à 18h. C'est donc un record depuis le début de la vaccination. Et premier tour de vis local, retour des restrictions sanitaires sur une partie de la Haute-Corse aujourd'hui. Décision du préfet face aux nombreux cas enregistrés dans les communes de Balagne et Saint-Florent. Les bars et les restaurants doivent désormais fermer à 23h. La jauge y est ramenée à 50% et ce au moins jusqu'au 1er août.
Ailleurs dans le monde, la pandémie continue de faire des ravages.
La situation est critique en Russie avec 780 morts sur la seule journée d'hier. Triste record dans le pays depuis le début de la pandémie. En Afrique, c'est le cas de la Tunisie qui inquiète le plus, pays le plus touché du continent. Plus de 100 morts par jour, des hôpitaux saturés au point que l'ambassade de Tunisie en France en appelle à la solidarité de la diaspora. Appel entendu. Frédéric Seyss.
Le docteur Gersalaoui est franco-tunisien, médecin pneumologue à l'hôpital de Beauvais dans l'Oise. L'an dernier, il a affronté le pic de la pandémie en France. Depuis quelques semaines, il observe avec effroi la situation en Tunisie.
Ah, c'est une catastrophe, la tension est énorme et tout le monde est dépassé.
Alors il a lancé une collecte de matériel médical et cette semaine, il se rend sur place pour assurer lui-même des consultations.
Habituellement, je prépare les cadeaux et tout ça, mais cette fois-ci, je prépare ma valise avec un stéthoscope, un saturomètre et puis tout ce qu'il faut pour une consultation.
L'ambassade de Tunisie en France, elle, appelle à l'aide la diaspora, mais la solidarité s'exerce déjà hors des circuits officiels par des liens plus directs.
Allô ? Maman ?
Oui ?
Ça va ?
Oui.
Fatma Bouvet de la Maison Neuve vit à Paris, franco-tunisienne. Elle relaie les initiatives et les collectes des Tunisiens de France.
Nous sommes confits de culpabilité de ne pas partager avec eux cette situation, mais finalement, on se dit qu'on est peut-être bien plus utile en pouvant réunir tous ces moyens, ce qu'on n'aurait pas pu faire dans un pays totalement paralysé, en fait.
Et en une semaine, les cagnottes en ligne ont permis de collecter près de 100 000 euros.
Frédéric Seyss, après avoir annoncé la fermeture de plusieurs bases dans le nord du Mali d'ici la fin de l'année, Emmanuel Macron annonce que l'opération Barkhane s'achèvera au premier trimestre de 2022 en continuant à agir, précise le chef de l'État. À terme, entre 2500 et 3000 militaires français resteront mobilisés pour lutter contre les djihadistes dans la région, moitié moins qu'à l'heure actuelle. Précision apportée hier soir lors du traditionnel discours aux armées et alors que le défilé du 14 juillet retrouve aujourd'hui son faste. Après une édition 2020 réduite, 10 000 spectateurs le long des Champs-Élysées, 5 000 participants et parmi les forces mises à l'honneur cette année, les discrets sous-mariniers. Nathalie Hernandez.
Ils font rarement parler d'eux car la discrétion est leur gage de réussite. Les sous-marins d'attaque nucléaire français, qui naviguent en moyenne 200 jours par an, peuvent autant protéger que combattre ou encore recueillir de précieux renseignements. Mais quelquefois, leur présence est signalée. Ça a été le cas en février dernier. La ministre des Armées elle-même a annoncé que l'Émeraude venait de patrouiller en mer de Chine méridionale. Histoire de montrer que la marine nationale peut se déployer dans cette zone lointaine, hautement stratégique pour les flux commerciaux maritimes et par là même objet de rivalité entre États. Une étape dans cette longue mission Marianne en Indo-Pacifique et un baptême du feu sous les mers pour Baptiste, enseigne de vaisseau.
C'était une très belle aventure humaine, technique, sur tous les points de vue. C'est quelque chose que aucun sous-marin français n'avait fait depuis que nous sommes présents dans cette zone du Pacifique. Nous avons bien conscience, c'est pour ça que nous sommes tous engagés dans la marine pour servir le pays. Donc ça demande des sacrifices au quotidien, familiaux, forcément. Beaucoup d'absences, beaucoup d'investissements. Mais on est fiers d'accomplir ce qu'on fait au jour le jour.
Au total, les 71 marins de l'Émeraude ont effectué 199 jours de mer et plus de 55 000 kilomètres, soit 1,3 fois le tour de la Terre.
Nathalie Hernandez, la fête nationale, c'est aussi les bals populaires, les feux d'artifice et le traditionnel concert de Paris sur le Champ de Mars à suivre en direct ce soir à partir de 21h sur France Inter avec l'Orchestre National de France, le chœur et la maîtrise de Radio France.
Comment atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 ?
Question à laquelle la Commission européenne doit apporter des réponses aujourd'hui. 13 projets de législation sont sur la table, dont une taxe carbone et l'interdiction des véhicules thermiques qui semble se dessiner pour 2035. Pendant ce temps, la maison continue de brûler. En Californie, 85% des terres sont en état d'extrême sécheresse. 60 000 hectares ont déjà brûlé cette année et la vague de chaleur qui frappe tout l'Ouest américain n'arrange rien. Loïc Piala.
Des images filmées par un pompier donnent une idée de ce à quoi les soldats du feu font face. Cernés par les vents, lui et ses collègues doivent se réfugier à l'intérieur de leur camion. Vent, mais aussi température au-delà des 35 degrés et extrême sécheresse. Dit André Wiley, l'un des 2800 pompiers mobilisés sur le Beckwith Complex au nord-est de la Californie.
Our fuels today
La végétation est déjà très sèche. Normalement, on ne devrait pas l'avoir comme ça avant la fin du mois d'août.
Déclenché par la foudre, le Beckwith Complex brûle depuis 2 semaines. Cet habitant, interrogé par la chaîne ABC, a dû évacuer en urgence. Il a trouvé une métaphore limpide pour résumer ce qu'il a vécu.
Les flammes fonçaient sur nous comme les phares d'un train de marchandises.
Avec plus de 35 000 hectares ravagés, il s'agit de l'incendie le plus imposant cette année dans l'État. Et même s'il a surtout détruit de la végétation dans une région rurale, il a aussi fait des dégâts matériels, comme le raconte cet autre résident.
On est sortis juste à temps. J'ai regardé dans mon rétroviseur et les flammes sont passées par-dessus la route. Elles ont attaqué mon allée et détruit ma propriété, des deux côtés.
Depuis dimanche, un autre incendie, le River Fire, se rapproche du parc national du Yosemite. Et dans l'Oregon voisin, le gigantesque Bootleg Fire menace des lignes électriques alimentant la Californie. À Los Angeles, Loïc Piella pour France Inter.
Il en faudrait plus en Californie, sans doute moins en France. La pluie continue de gâcher l'été d'une bonne partie de l'Hexagone. Et ce matin, Météo France place 5 départements de l'Est en vigilance pluie, inondation. La Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin et les Vosges. 16 km à 8,5% de moyenne, le terrible col du Porté. Voilà ce qui attend les coureurs du Tour de France. Arrivés au sommet pour cette 17e étape aujourd'hui. Départ à la mi-journée de Muret, c'est en Haute-Garonne. Hier, c'est l'Autrichien Patrick Conrad qui s'est imposé à Saint-Gaudens. Enfin, l'anniversaire d'un éternel jeune homme fêté hier soir à Avignon, celui du sociologue et philosophe Edgar Morin, 100 ans le 8 juillet. 2000 personnes pour le célébrer dans la cour d'honneur du Palais des Papes, mais sans l'intéresser, trop fatigué pour faire le déplacement, il est resté à Paris et s'est adressé en vidéo au public et à ses amis venus nombreux pour le raconter. Stéphane Capron.
Bonsoir Edgar.
Christiane Taubira a fait le voyage de Guyane pour cette soirée anniversaire.
Vous allez bien, vous êtes en pleine forme.
J'irai mieux après une semaine de sommeil et de repos. Mais je suis très content déjà de vous voir, cher ami.
Pendant 2 heures, les invités, dont l'historien et académicien Pascal Horry, ont retracé la vie passionnante d'Edgar Morin.
On espère qu'il aura 100 ans encore devant lui pour connaître des expériences aussi sympathiques. C'est fondamentalement quelqu'un, depuis le premier moment où il naît dans les conditions les plus épouvantables jusqu'à maintenant, reste l'espérance incarnée.
Le public a découvert un Edgar Morin inattendu, chantant un refrain de l'opéra de Katsu de Kurt Weill.
C'est la nuit.
Cette soirée a été imaginée et préparée par le journaliste Nicolas Truong.
Non seulement sa pensée est incarnée, mais lui-même l'était. Il avait envie de partager ça. C'est aussi sa manière de faire, de vivre. C'est quelqu'un qui aime les gens, les autres, la vie, la fête.
Et à la fin de cet hommage, Edgar Morin avait les larmes aux yeux lorsque Christiane Taubira fait réciter aux 2000 spectateurs l'un de ses poèmes préférés de l'Andalou, Antonio Machado.
Marcheur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant, telle est la devise d'Edgar Morin, empruntée à Machado, et que de chemin parcouru en un siècle.
Effectivement, merci infiniment Kevin, et on vous retrouve tout à l'heure à 9h. À venir, le zoom de la rédaction.